une histoire qui parte d'une question. Une histoire qui tutoie le passé. Une histoire qui questionne les documents.
Le temps de l'histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale, c'est un temps multiple.
C'est à partir de cette étude des structures sociales de la société d'Ancien Régime que je suis, si je puis dire, entré en révolution.
20 minutes d'histoire.
Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans cette deuxième émission de 20 minutes d'histoire. Cette semaine, Thibaut vous propose un carnet de l'histoire sur l'unité italienne, dont nous fêtons cette année les 150 ans. Vous pourrez retrouver le carnet de l'histoire sur le player, donc juste en dessous de l'émission des entretiens donc de 20 minutes d'histoire. Mais passons tout de suite à l'entretien. Fabien reçoit aujourd'hui Martin Aurel.
Merci Caroline, et j'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir au micro de 20 minutes d'histoire Martin Aurel, professeur d'histoire médiévale. Bonjour Monsieur Aurel.
Bonjour Fabien.
Alors, quelques mots d'abord pour vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes actuellement professeur d'histoire médiévale à l'Université de Poitiers, d'où vous dirigez les cahiers de civilisation médiévale, entre autres. Vos recherches portent essentiellement sur la noblesse au Moyen-Âge, dans tous les sens du terme, nous dirons. D'un point de vue géographique, vous vous êtes d'abord intéressé surtout à la Provence, puis vous avez un peu glissé vers l'ouest pour les terres angevines, et notamment dans votre ouvrage « L'Empire des Plantagenets » paru chez Perrin en 2003. Et aujourd'hui, vos recherches sont bien sûr reconnues pour leur grande qualité. Et votre reconduite en 2007 parmi les membres seniors de l'Institut universitaire de France en est la preuve. Alors, nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer en particulier un ouvrage paru cette année chez Fayard, Le Chevalier Lettré, Savoir et Conduite dans l'aristocratie au XIIe et XIIIe siècle. Alors, l'ensemble de l'ouvrage tend vers l'idée que savoir et supériorité militaire ne s'opposent pas au Moyen-Âge, loin de là. La société médiévale est cependant traditionnellement divisée en trois ordres, comme vous le rappelez, avec chacun leurs attributs, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent. Mais votre ouvrage montre qu'il est un pont entre ces ordres, en quelque sorte. Les chevaliers touchent à la clergie, pour reprendre le terme que vous utilisez. Pouvez-vous revenir sur cette notion de clergie et comment les chevaliers y accèdent finalement ?
Oui, le terme clergie est ambigu ou du moins est double, puisque d'une part, il peut désigner les clercs au sens religieux du terme, ceux qui ont été ordonnés ou tonsurés, qui ont reçu un ordre mineur au moins. Et puis d'autre part, ce mot désigne le savoir. Clergie, un ancien français, renvoie à ses connaissances qui ne sont pas des connaissances que l'on peut recevoir par une éducation de bouche à oreille, de lèvres de sa mère, de son entourage familial, par l'oral, mais des connaissances livresques, savantes. Et il faut savoir qu'au XIIe, au XIIIe siècle, presque toutes ces connaissances-là, de la culture donc des d'élite, pour employer un terme peut-être qui ne convient pas trop, eh bien cette culture d'élite passe nécessairement et véhiculé par le latin, ce qui ajoute donc un apprentissage supplémentaire d'une langue à laquelle, bien sûr, personne n'est familier au départ.
Oui. Et donc, pouvez-vous nous rappeler un petit peu les étapes qui conduisent ces chevaliers à vouloir accéder à cette culture en deux, trois mots, et on reviendra après dans le
oui,
détail.
Vous voulez dire,
en partant peut-être de ce qu'on appelle maintenant la Renaissance du XIIe siècle, depuis les travaux de Haskins, Verger,
voilà,
Le Goff.
Haskins était un personnage assez surprenant puisqu'il a eu un rôle très important au traité de Trianon-Versailles. C'était un membre de l'entourage du président Wilson. En même temps, il était professeur à l'université de Harvard et il appartenait à cette génération d'Américains, de médiévistes américains qui considéraient que le Moyen-Âge occidental était la racine de la démocratie, de l'indépendance américaine. Donc, pour manifester sa gratitude envers l'Europe, je dis ça parce que de nos jours, c'est une toute autre vision peut-être qui apparaît dans les campus américains, un certain Moyen-Âge grotesque, répressif, où l'on a appris à persécuter, entre autres choses, ce qui n'est pas faux non plus, mais de cette admiration, Haskins a essayé de dire « Non, ce n'est pas le XVIe siècle, c'est le XIIe siècle, c'est là que tout a basculé, c'est là que l'humanisme, certes teint d'une présence divine très marquée, c'est là aussi que la redécouverte de ce monde antique, la fascination pour Rome, pour Grèce, pour la philosophie stoïcienne a commencé, vous voyez. Mais ça s'accompagne aussi d'un mouvement de fond, d'une lame de fond, bouleversement structurel, l'essor agricole, le développement du commerce, la croissance des villes et à ce titre l'apparition de ce que Jacques Le Goff appelait peut-être de façon anachronique l'intellectuel médiéval, oui, cet homme qui ne vit que de sa connaissance, de sa plume, de son savoir, tout cela participe de ce mouvement. Certes, c'est un mouvement clérical, pour ainsi dire, de ces groupes un peu d'élite qui apprend le latin, qui est un peu à part de ces clercs, de ces prêtres. Mais il y a quelque chose qui s'est diffusé comme par percolation jusqu'aux chevaliers. Et c'est ce que j'essayais de démontrer dans cet ouvrage.
Oui, donc des chevaliers qui deviennent amoureux des lettres, au point parfois de devenir écrivains eux-mêmes. Et moi, un des personnages qui m'ont intéressé dans votre ouvrage, c'est Guy de Cavaillon, que vous évoquez dans la première partie, j'essaie de retrouver la page, 172, qui vit donc fin 12e, début 13e, proche de Raymond de Toulouse, le fameux comte, mais qui perd beaucoup du coup avec la conquête capétienne du Languedoc. Pouvez-vous nous parler un petit peu de lui quand même,
oui,
ce personnage?
Guy de Cavaillon, c'est un de ces troubadours qui ont passé leur vie à se battre. Ce sont des gens qui manient aussi bien la plume que l'épée, qui sont capables de composer en langue vernaculaire, en langue d'oc, en occitan en l'occurrence, donc la langue pratiquée au sud de la Loire. Ici, nous sommes en Provence, dans le comtat vénécin. Vous savez que le comtat vénécin, le pays autour d'Avignon, appartenait au comte de Toulouse et qu'il est passé à la suite de la croisade albigeoise à la papauté. Mais en attendant, cet homme se bat corps et âme pour les droits de Raymond VI, de Raymond VII, son fils, contre Simon de Montfort, puis contre Louis VIII, roi de France. Et sa vie durant, il s'est engagé dans ses combats, mais aussi il a compris qu'il y avait la possibilité de transmettre des messages politiques, de faire de la propagande avant la lettre, comment, en diffusant ce qu'on appelle à l'époque des sirventes, des chansons engagées qui transitent de bouche à oreille, qui transitent par les jongleurs. D'ailleurs, elles sont très drôles, ces chansons, parce que très souvent, elles reprennent un tube connu, une chanson que tout le monde, une mélodie qui est familière à tous, et ils y mettent à la place des paroles traditionnelles des messages politiques. Souvent aussi c'est des attaques perfides ad hominem à l'homme, en caricaturant tel ou tel personnage, donc ça fait rire. C'est très dur aussi, puisque l'ironie est la pire des armes. Et il a composé donc beaucoup de chansons contre les Français, c'est-à-dire par français, il comprenait bien sûr les gens du nord de France,
capétien,
les croisés. En même temps, il était capable de composer de chansons d'amour. Disons que c'est un homme qui nous a laissé beaucoup de jeux partis, de chansons à deux ou à trois, parce que ces hommes étaient capables, justement parce qu'ils appartenaient à une civilisation orale, d'improviser des chansons très facilement au cours des soirées, des beuveries, enfin pas trop, il fallait pas qu'ils boivent trop parce qu'il leur fallait une certaine fraîcheur d'esprit pour pouvoir composer ces chansons, mais ils étaient capables de se répondre du tac au tac, un vers sur un sujet imposé, de débattre donc par poème interposé. Donc il nous a laissé beaucoup de ces pièces, et souvent c'est avec des femmes ou avec des troubadours qui débattent sur les problèmes amoureux. Donc il y a la guerre, il y a l'amour, les deux réalités sont présentes dans son œuvre.
Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que quand il écrit, quand on parle d'un chevalier qui écrit, on s'attend à quelqu'un qui vante ses mérites militaires, peut-être qui, de façon un peu exagérée parfois. Et lui, il écrit plutôt pour dire qu'il a perdu, et comment il a perdu, il se désole sur sa propre défaite. Il y a une forme de,
oui, vous avez raison,
de sentiment étonnant là dans sa, oui, manière d'exprimer la guerre.
Oui, c'est vrai qu'à la fin, il est amer. Il dit qu'il a tout perdu, qu'il n'a même pas un bon cheval à proposer à quelqu'un qu'il aurait invité dans une soirée dans son château, qu'il faudra qu'il lui donne une espèce de mule, de mulet ou d'âne complètement chétif. Oui, c'est vrai, il dit aussi les autres m'appellent les vieux déshérités. Donc oui, il y a cette espèce de déréliction à la fin de sa vie, d'échéance qui est assez impressionnante.
Ouais. Et puis à cette occasion, vous montrez aussi comment ces nobles écrivains utilisent en même temps leur culture militaire en quelque sorte, et au point que lui parle de vassalité dans les relations amoureuses, par exemple. L'hommage liche prêté à la belle demoiselle, pareil, dans ces chansons.
Absolument, c'est l'amour courtois.
Cette rencontre des cultures dans les deux sens, en quelque sorte.
Oui, tout à fait, l'amour courtois est un amour médiéval, c'est un amour féodal. Et ces images, ces métaphores sont empruntées à la relation féodo-vassalique. Le seigneur qui se met à genoux devant son seigneur, qui met ses mains dans les siennes, qui reçoit aussi un gage, l'investiture, un symbole du fief dont il va être le possesseur. Et ces langages-là est passé dans les relations donc du seigneur au vassal, on le passera dans les relations amoureuses, avec bien entendu cette idée de soumission. C'est très marqué dans l'amour courtois du XIIe et du XIIIe siècle. Peut-être c'est une nouveauté, là encore c'est très controversé. Le fait de se faire tout petit devant la dame, de l'adorer, d'être attentif à ce qu'elle veut de vous, de lui obéir aveuglement, toutes ces idées découlent de ce vocabulaire féodal. C'est là que, parce que c'est leur grille d'analyse, c'est leur façon de percevoir la réalité. Donc la guerre et l'amour aussi se mêlent inextricablement sur ce point.
Bien sûr. Et oui, de plus en plus, dans votre livre, vous montrez que le chevalier peut être lettré au départ, mais qu'au fil des derniers siècles du Moyen-Âge, il doit être lettré en quelque sorte. Et vous défendez l'idée d'une sociabilité littéraire qui se met en place petit à petit dans les cours, à commencer par celle du roi. Et pour reprendre la célèbre formule, le roi illettré serait un asinus coronatus, c'est-à-dire un âne couronné. Est-ce que cela devient valable pour tout chevalier à la fin du Moyen-Âge ?
Non, on a encore des exemples très frappants. Il y a un personnage en sénéchal, si mes souvenirs sont bons, de la reine de France à la fin du XIIIe siècle, qui doit demander à un clerc d'apposer son sein, sa souscription, dans une charte, parce que lui-même est illettré. Vous voyez, il y a encore des cas assez exceptionnels, me semble-t-il, mais dans les bonnes familles, on y a des précepteurs qui complètent ce que la mère a appris à partir du psautier. Vous voyez, vers 1300, il y a un thème iconographique qui est très intéressant de cette évolution, de cette diffusion des lettres au sein de ces familles aristocratiques. C'est le thème de la Vierge Marie qui reçoit de sa mère, Sainte Anne, l'apprentissage des lettres. Anne qui lui ouvre un psautier, de plus en plus dans les psautiers de grandes dames, parce que c'est leur livre, le livre d'heures, le psautier aussi, c'est l'ouvrage de base qu'elles utilisent continuellement pour éduquer leurs enfants à la lecture, est miniaturée avec cette scène qui est très significative. Oui.
Et donc pouvez-vous préciser un petit peu davantage cette idée d'une sociabilité qui se fait autour des lettres petit à petit dans les cours seigneuriales?
Oui,
aussi.
Oui, tout à fait.
Avec le personnage du jongleur, notamment, qui est quand même, qui devient central presque dans certaines cours.
Oui, c'est vrai que le nombre de jongleurs a dû s'accroître considérablement à partir du XIIe siècle, ne serait-ce que par l'abondance d'œuvres en langue vernaculaire que nous recevons à partir de cette période, qu'on n'en avait pas trop auparavant. Et le personnage du jongleur est un personnage qui est dans un monde d'entre-deux. Il est comme de tout temps vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis du clergé. Il existe une méfiance à son égard parce qu'il ne vit pas comme tout le monde. Il voyage beaucoup, il est nomade. La stabilité est considérée une valeur, sauf pour les pèlerins ou les croisés, au Moyen-Âge. C'est aussi quelqu'un qui parfois distorsionne son corps ou fait un usage de son corps en scène qui n'est pas tout à fait dans les canons de la mesure. Ces hommes sont imprégnés de stoïcisme et ils considèrent qu'il faut donc cette modération dans la façon d'agir. Donc ça aussi, ça ne leur plaît pas beaucoup. Il y a aussi le registre facétieux ou le registre irrévérent contre la religion, puis dans un cadre parodique, dans la fiction, peut être adopté par le jongleur. Donc on le sait, jusqu'à Molière, il y a eu toujours une méfiance à l'égard des hommes de scène de la part des autorités ecclésiastiques. Mais c'est aussi le fait des chevaliers. Les chevaliers à l'égard des jongleurs, ils les aiment bien parce qu'ils leur apprennent des trucs, à composer des chansons, à jouer de la vielle. Ils leur passent des bons mots. Mais en même temps, ils savent que ils les jalousent un peu. Voilà, ils les jalousent parce qu'ils sont plus forts qu'eux. C'est leur métier qu'eux. De briller en scène. Et puis il y a aussi, je parlais tout à l'heure de ces jeux partis, de ces débats. Souvent les jongleurs et les chevaliers débattent entre eux par verre interposé. Ils s'envoient ils décochent des flèches complètement dures les uns contre les autres. Donc c'est des situations assez ambiguës. Mais enfin, un jongleur aussi est jalousé parce qu'il peut beaucoup gagner du jour au lendemain. C'est un peu comme nos pop stars. Donc il peut faire l'objet de donations dans l'enthousiasme d'une soirée, et puis aussi parce que pour les nobles, la largesse, la munificence fait partie de leur capital symbolique, de leur prestige. Il faut qu'ils donnent, il faut qu'ils distribuent. Donc, s'il y a un jongleur brillant, ça sera celui qui donnera les plus beaux manteaux de fourrure, le plus de chevaux, qui lui jettera le plus de monnaie d'or. Vous voyez, donc il y a tout cela qui crée une ambiance qui est à la fois d'attirance et de répulsion vis-à-vis de ces jongleurs.
D'accord. Et donc, ce caractère de plus en plus lettré des chevaliers n'est forcément pas sans conséquence. Donc là, on progresse dans le livre vers la fin. Vous exprimez donc les conséquences de la clergie sur la culture chevaleresque à partir du XIIe, XIIIe siècle, dans le cadre de la naissance de l'amour courtois dont on parlait déjà tout à l'heure. On a un peu l'impression qu'on passe du chevalier guerrier au chevalier courtisan, en quelque sorte. Et petit à petit, c'est la figure du gentilhomme qu'on va voir après, qui apparaît déjà dès le XIIIe siècle.
Oui, tout à fait, puisque pour nous, bien sûr, on associe ça aux cours italiennes du XVIe siècle encore. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a de plus en plus l'idée que un homme du monde en guerrier doit bien se tenir en société, et ça participe aussi de ce mouvement. C'est un peu la tarte à la crème, mais après tout, de la thèse de Norbert Elias, la civilisation des mœurs. Elias était brillantissime. C'est un ouvrage malgré tout qui a été critiqué par les médiévistes, d'une part parce que il fait apparaître ce phénomène tardivement au XVIe siècle, alors que justement, ne serait-ce que par l'existence de manuels de civilité de la fin du XIIe et du XIIIe siècle, ses sources infirment son point de vue. Et puis aussi, ce que personnellement je n'aime pas trop Norbert Elias, même si j'admire toute son œuvre, en particulier ses ouvrages sur le sport, c'est extrêmement stimulant pour moi, au sujet de tournois par exemple, c'est un peu cette vision très négative, très sombre de la nature humaine, mais il faut le comprendre, c'était un juif persécuté par les nazis au moment où il écrit ses livres, donc il n'avait pas une vision très positive de l'état, du monde, de la société. Nous, à sa place, on aurait probablement fait une dépression beaucoup plus forte. Donc, pour lui, la société est mauvaise, et le roi est là avec une sorte de bâton, il surveille les gens adoptent un masque. Il ne faut pas que dans ces milieux claustrophobiques, ce milieu intrigant de la cour où la cabale règne, il ne faut pas découvrir ses sentiments. Et donc ça serait cette façon de découvrir l'individualité, la maîtrise de soi, ne serait-ce que de son visage, de ses expressions, de ses passions, qui auraient brimé la spontanéité. Donc ce n'est pas du tout ça ce que j'essayais de faire dans ce livre, c'est de dire au contraire que dans ses manières, dans cette vie en société, dans l'apprentissage de belles-lettres, il y avait au contraire une source d'épanouissement, et même de la part de cette noblesse qui s'y bourrait de défauts, à commencer par son arrogance, par sa morgue à l'égard des roturiers, de ceux qui n'appartiennent pas à l'aristocratie, qui n'ont pas le sang bleu, même chez eux, il y a petit à petit, ces idées font leur chemin, et Dante se met à dire « Ah, peut-être la noblesse qui compte, c'est la noblesse d'âme. » C'est pas, et les supérieurs, et ses retours au classique aussi, à Juvenal, qui avait des mots très durs sur les généalogies, c'est des choses qui reviennent très fort au XIIe, XIIIe siècle, par la diffusion de la culture, vous voyez. Il faut qu'on ait, enfin, si vous êtes là, c'est parce que vous aimez la culture, parce que vous avez les lettres. Mais c'est vrai qu'on a le thème de la littératie, de la scripturalité, c'est-à-dire les usages sociaux de l'écriture, ont peut-être été perçus parfois comme des synonymes d'oppression, que ce soit par la recherche de Norbert Elias pour les manières, ou que ce soit aussi par l'idée de bureaucratie, d'écriture pragmatique qui ne sert qu'à enrôler ou à contrôler les rouleaux, les rolls de l'échiquier anglais ou normand, qui permettent de mettre tout le monde sur papier pour taxer, pour obliger à aller à la guerre, etc. Donc un peu cette idée d'une bureaucratie oppressante, eh bien il y a plus que cela. Il y a les belles lettres qui ont beaucoup compté pour ces hommes et qui sont un facteur de progrès social.
C'est ça. Et donc, alors une question qui appelle une réponse courte, mais pas forcément évidente. Je vous demandais la qualité qui doit primer chez le chevalier à la fin du Moyen-Âge, vous répondriez laquelle ?
C'est vrai que c'est d'abord un chevalier, c'est un guerrier. Donc le courage, l'audace, la vaillance est importante.
L'art
c'est
de la capital. Guerre.
Voilà, l'art de la guerre reste prépondérant. Quand vous lisez ce que Jean de Salisbury, un très grand penseur du XIIe siècle, dit sur la chevalerie, la chevalerie, ce sont les mains du corps social, le roi est la tête et l'âme est le clergé. Donc, et à quoi ça sert les mains? À défendre. Et il faut qu'ils soient disposés à donner leur sang, leur vie, pour empêcher des attaques extérieures. Donc il y a l'idée de guerre juste. C'est vrai que le chevalier reste avant tout un homme de guerre, mais il est bon qu'il sache aussi les lettres. Ça peut rendre service dans l'administration royale à l'heure de mettre un jugement, de préparer un procès-verbal, de faire une enquête et de la coucher par écrit. Il est bon aussi qu'il sache se tenir à la cour, qu'il sache briller, parce que ça l'aidera pour sa carrière personnelle, pour plaire aussi, bien sûr, à la cour. Donc, cette deuxième facette n'est pas négligeable.
D'accord. Je vous remercie pour vos réponses sur l'ouvrage. Mais si vous le voulez bien, j'aimerais bien qu'on le quitte un petit peu maintenant. Pour parler de votre rapport à l'histoire du Moyen-Âge plus personnellement peut-être. Et j'ai envie de commencer par vous interroger sur un ouvrage que vous avez préfacé qui s'appelle « Camelot au cœur du Moyen-Âge », fondé sur une série à succès que je confesse j'aime regarder.
Vous êtes lyonnais en plus, donc c'est d'ici que tout est parti.
Et donc pour vous, Martin Aurel, est-ce le spécialiste d'Arthur ou bien le fan de la série qui a écrit cette préface, ou les deux d'ailleurs?
Les deux. Moi, je vous avoue que la série, j'aime beaucoup les petits sketchs. Les films longs, les longs métrages, j'ai un peu moins accroché, même si c'était pas mal, mais j'aimais plus les petits sketchs avec la musique du générique, etc. Mais c'est vrai qu'Alexandre Astier est un génie d'être capable d'écrire ces petites pièces de théâtre en si peu de temps, chaque semaine, de se renouveler, quitte à aller vers les sources du Moyen-Âge. Quand il raconte sa conception, la conception d'Arthur, Igerne, Uther Pendragon, et il reprend pratiquement textuellement le texte de Geoffroy de Monmouth, et il est capable de nous rendre ça contemporain. Bien sûr, il y a ce côté décalé entre la façon dont il joue sur un vocabulaire très contemporain, un peu de comptoir de café de commerce, et puis les réalités médiévales, mais c'est là où c'est le ressort humoristique le plus réussi de la série, me semble-t-il. C'est une maîtrise de la parole, et puis il y a aussi un côté Buster Keaton qui m'a toujours fasciné, cet homme qui a un visage impavide, le monde peut s'effondrer autour de lui, des choses très drôles peuvent se passé aussi. Il va jamais rire, il va jamais se mettre en colère. Enfin, aussi, s'il se met en colère, c'est toujours très retenu. Donc, c'est sûr que j'adore cette série. C'est vrai. Et j'ai eu la chance, par mon éditeur de l'époque, Perrin et Marie Leroy, qui était l'éditrice, d'être partie dans ce projet, donc de ces commentaires de la série. Donc, j'en suis très heureux.
Très bien. Et donc, pour terminer, là, j'ai envie de vous laisser micro libre. Pour nous dire ce que vous avez envie de nous dire sur l'histoire médiévale en France aujourd'hui, les conseils pour les jeunes chercheurs, votre conception de l'histoire médiévale, ce que vous voulez.
Alors là, c'est difficile. Donc l'histoire médiévale nous plaît pour une raison très simple, enfin en tout cas elle m'a plu, parce qu'elle est à la fois très proche de nous et très lointaine, beaucoup plus lointaine peut-être que l'histoire grecque ou l'histoire romaine. Dans ma génération, au lycée et en collège, j'ai fait beaucoup de latin et de grec, et on a étudié la civilisation, et ça me rappelait toujours l'ordre, les institutions qui marchent, tout fonctionne, alors que c'était peut-être une vision d'Épinal. On sait, depuis les travaux bien sûr des spécialistes, que c'était beaucoup plus compliqué que ça, mais le Moyen-Âge, ça nous permet de voir une société aussi sur laquelle le regard anthropologique est très porteur aussi, parce qu'il y a toute cette culture populaire, cette oralité qui est extrêmement présente. J'aime aussi beaucoup l'histoire religieuse, c'est vrai, et c'est une société qui a un rapport à la théologie, politique, parce que tout est le social et le religieux se mêlent inextricablement, qui est très, très curieux et très intéressant à approfondir. Une société aussi, bien sûr, où il y a des structures d'encadrement, de sociabilité qui sont l'objet d'une rationalité de notre part, parce qu'étudier les individus, leur psychologie, leur biographie personnelle, c'est toujours très déroutant, et alors qu'on peut beaucoup plus chercher des modèles explicatifs dans une société comme celle-ci. où les corps intermédiaires ou les structures d'encadrement sont si fortes, vous voyez, puis il y a des évolutions, il y a la licence des principautés territoriales. Personnellement, je suis catalan, j'appartiens à une nation qui n'a pas d'État et dont le Moyen-Âge a été une période, pour laquelle le Moyen-Âge a été une période très importante, donc le rôle de la principauté territoriale, de la formation de l'État ensuite, des États-nations, tout cela est en germe. Ça aurait pu donner autre chose. C'est même un peu à la mode maintenant de faire de l'histoire contrefactuelle, ce qui aurait pu être l'histoire. Enfin, je ne crois pas trop, mais bon. Donc oui, il y a toujours à l'égard du Moyen-Âge. Alors, quel conseil je peux donner? D'abord, les bases méthodologiques solides, disons la connaissance du latin et la connaissance du latin. Donc, pour lire les sources en langue originale, un peu d'ancien français ou d'occitan, ça ne fait pas de mal non plus. Et puis aussi, de ne pas trop partir avec des préjugés. C'est toujours pareil, il faut avoir beaucoup de lectures historiographiques de ce que les collègues écrivent, mais en même temps aborder la source avec une certaine naïveté, une certaine virginité, donc sans avoir trop d'a priori, pour essayer d'en tirer l'essentiel, pour ne pas se laisser emporter par ce qu'on a lu ailleurs. Mais c'est comme ça que les découvertes arrivent, c'est sûr. On est un peu dans une période très, très bonne de nouvelle érudition. Les grands schémas explicatifs des années 60-70 sont disparus. Donc on a une possibilité de trouver de nouveaux modèles de notre côté, donc plus de liberté. Ça aussi, c'est très positif dans la médiévistique actuelle. Et puis ce que j'adore actuellement, c'est la facilité des échanges avec l'Europe, d'un pays sur l'autre. Aussi, à l'intérieur de la médiévistique, l'interdisciplinarité, j'ai la chance d'être à Poitiers où c'est notre dogme, donc on travaille beaucoup avec les littéraires, avec les historiens de l'art, avec les philosophes ou les théologiens, donc parce que il faut rompre les moules traditionnels. C'est comme ça qu'on pourra avoir une vision globale de la période médiévale, et puis aussi une vision qui dépasse les frontières, puisque comme je vous disais tout à l'heure, les frontières nationales ne comptent pas à cette période. J'admire les clercs du Moyen Âge.
Les frontières chronologiques, pas forcément qu'on Exactement. Connaît habituellement, sont pas forcément
C'est
les plus
vrai,
judicieuses.
Jacques
Le Goff
a bien insisté sur ces très longs Moyen Âge. Qui va jusqu'à la Révolution française, pourquoi pas, ou la Révolution industrielle, il a sans doute raison, il y a des continuités formidables jusqu'à l'industrialisation, oui. Voilà.
Merci beaucoup Martin Aurel, et je rappelle donc votre ouvrage Le Chevalier lettré, savoir et conduite de l'aristocratie au XIIe et XIIIe siècle, paru chez Fayard cette année. Et je remercie aussi Caroline et Thibault pour leur participation, et je vous encourage à écouter les autres émissions de Transistor, notamment encore tous les numéros spéciaux des Journées de l'économie, disponible sur la page Actu de notre site. Merci à tous.